Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir hein, qui vous parle ce soir d'un livre de Jacques Bouvresse, hein, qui nous a quittés en mai dernier. Vous venez d'entendre d'abord, avant qu'on rentre sur le détail du texte, un morceau de No Means No qui s'appelle Angel or Devil. On peut dire ça, hein. Alors, ce soir pour Jeudi Noir, donc toujours José à la technique, Michel dans ses œuvres et en chemise, et moi-même. Donc, pour vous présenter donc ce dernier livre rédigé du vivant de Jacques Bouvresse, hein,
puisqu'on avant-dernier peut-être.
Avant-dernier peut-être, ouais. Donc, qui est sorti peu après sa disparition. Mais qui avait été intégralement achevé, relu, corrigé et vérifié par ses soins. Donc il s'agit d'un livre qui s'appelle « Les foudres de Nietzsche et l'aveuglement des disciples », sous-titre. C'est aux éditions Hors d'atteinte et ça vient donc d'être édité cet été. Donc on est un petit peu, encore une fois, au cœur de l'actualité éditoriale. Alors bon, Jacques Bouvresse, on ne le présentera pas ce soir, parce que ça fait partie des grandes références de cette émission. On l'a invité à plusieurs reprises. Et on a eu l'occasion de discuter avec lui sur beaucoup de sujets. Alors ici, c'est au fond c'est le deuxième livre qu'il consacre à l'œuvre de Nietzsche, hein, puisqu'il y a quelques années, il avait déjà publié chez Agon un texte qui s'appelait « Nietzsche contre Foucault », dans lequel il essayait déjà de proposer sa propre interprétation de Nietzsche, en montrant surtout comment, d'après lui, c'est un auteur qui avait été... complètement, trahi d'une certaine manière par des lectures, notamment celles des philosophes français des années 70. Alors, il pense beaucoup à Foucault, Deleuze, Derrida et aussi un certain nombre d'autres. Et donc, il y a ici dans ce deuxième opus, là, sur les foudres de Nietzsche, toujours ce souci de retourner au texte de Nietzsche lui-même, en rappelant un certain nombre de vérités peut-être un peu désagréables. L'idée que, notamment, Nietzsche ne peut difficilement être considéré comme un penseur de gauche, comme un philosophe de gauche, alors que c'est quelque chose qui a été mis beaucoup en avant au cours des années 70. Notamment par ses interprètes français. Il propose aussi, me semble-t-il, une lecture de Nietzsche qui est tout à fait personnelle, au fond, et assez atypique, assez surprenante par rapport à la vulgate des interprètes habituels, notamment sur la question de la vérité. Ça, tu nous en diras peut-être un mot aussi, Michel. Et puis, c'est un livre aussi qui, du coup, est intéressant parce qu'il permet peut-être de relire de manière aussi rétrospective les manques, peut-être aussi les impasses auxquels sont confrontés toute une série d'auteurs et de philosophes, notamment parce qu'ils n'ont pas vu ou pas voulu voir chez Nietzsche des aspects qui ne collaient pas, hein, avec leur engagement politique personnel et avec ce qu'ils voulaient faire en fait de cet auteur-là. Alors peut-être dans un premier temps, peut-être rappeler aux auditeurs un petit peu Bon, la philosophie de Nietzsche en 10 minutes, c'est peut-être un peu au-dessus de nos forces, hein. Mais peut-être rappelez-toi au moins les thématiques, on va dire. Peut-être ça, tu peux faire ça pour nous, Michel. Tu peux faire ça. Les thématiques les thématiques de Nietzsche qui ont dominé les interprétations et les lectures de son œuvre depuis les années 70, et du coup ce que permet de rectifier ou de corriger ou d'ajuster le travail de Bouvresse dans ce texte-là.
Alors, deux, trois mots peut-être sur Nietzsche. Donc d'abord, effectivement, c'est un philosophe qui écrit en allemand, qui a vécu entre la Suisse, la France et l'Italie pendant de nombreuses années d'errance, parce qu'il était en congé, une espèce de congé maladie éternel pour l'université de Bâle. Et c'est un philosophe qui, en quelque sorte, n'était pas un universitaire comme Hegel, n'était pas non plus une espèce de bourgeois comme Schopenhauer qui écrit depuis ses rentes. C'était quelqu'un qui allait de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel et écrivait des quantités considérables de choses. Il a commencé sa carrière philosophique en 1871, avec la publication de La naissance de la tragédie. Et il l'a achevé dans une ville italienne, là dont le nom m'échappe, frappé par la folie. On pense qu'il avait une maladie quelconque, et dégénérative qui a, enfin, peut-être la syphilis, on sait pas trop. Et entre cette brève période, quand même, pour un philosophe, entre 1071 et 1889, il va publier un nombre considérable d'ouvrages et il va écrire un nombre encore plus considérable de lignes, qu'aujourd'hui on va appeler les posthumes. Et donc vous avez tout un tas de livres très très célèbres avec des titres qui sont tout à fait appropriés à un buzz immense. Puisqu'il y a les considérations inactuelles, il y a Aurore, Humain trop humain,
Crépuscule des idoles.
Alors ça c'est après, mais t'as Ainsi par les Zarathustra, Gai Savoir, Part de la bien et mal, Généalogie de la morale, Ecce Homo,
Génie du titre.
Le génie du titre. Et c'est un auteur, alors, pour un jeune étudiant en philosophie comme moi j'ai pu l'être dans les années 90 qui était béni, lire Nietzsche c'était une expérience assez incroyable parce que par rapport à des traités relativement lourds et pesants, quand vous lisiez du Kant ou quand vous lisiez du Descartes ou des choses comme ça, vous aviez affaire à des appareils démonstratifs plutôt assez lourds et pas drôles. Et quand on lisait Nietzsche, tout d'un coup, il traitait les philosophes d'imbéciles, il y avait des vannes à peu près toutes les phrases, c'était des textes très courts, très percutants, et qui vous donnaient, enfin moi qui me donnais en tout cas l'impression de, genre, le problème de la conscience, mais enfin, Benet, la conscience c'est une illusion des philosophes, on passe à autre chose. Et donc il y avait cette, de ce point de vue-là, cette espèce d'énergie que transmet Nietzsche, pour un jeune esprit, était quelque chose.
Avec le souci de renverser la table, de vous tout casser. Hein.
C'est
philosophie
ça,
à coups de marteau. Hein,
philosophie à coups de marteau, renverser les valeurs. Après, il y avait tout un tas de choses qui, déjà à l'époque, me gênaient, parce que j'avais jamais eu l'âme d'un surhomme. Mais malgré tout, il y avait tout un tas de choses qui étaient extrêmement entraînantes dans cette philosophie, même si, a posteriori, rétrospectivement, je m'aperçois que évidemment il y avait énormément de choses qui m'échappaient et que je comprenais en fait à peine. Mais voilà pour situer un petit peu Nietzsche, philosophe allemand, fin 19e, tout début. Alors il meurt en 1900, mais il a plus rien produit depuis 1889. Et c'est un philosophe qui va avoir un héritage extrêmement contesté, puisqu'il avait une sœur antisémite. Marié à un pan-germaniste fanatique qui a essayé de monter une colonie aryenne en Amérique du Sud. C'est un échec épouvantable, mais elle a survécu. Elle est rentrée en Allemagne et quand son frère Nietzsche est devenu fou, elle l'a accueilli chez elle. La mère et la sœur ont accueilli Nietzsche chez elle. Elles ont pris soin de lui jusqu'à la fin de ses jours, mais après sa mort, Elisabeth Forster Nietzsche a pris la main sur l'œuvre de Nietzsche, et en particulier, elle a fait éditer un livre dont elle avait caviardé des passages, qu'elle avait un peu orienté par rapport à sa propre idéologie, qui s'intitulait La volonté de puissance, et qui est un livre qui n'existe pas. Nietzsche avait fait des tonnes de projets de livres, et dans les projets de livres, il y avait la volonté de puissance. C'est à partir de là qu'il a été reçu. Et ensuite, évidemment, on verra pourquoi peut-être, certains nazis ont essayé de s'emparer d'une partie de son œuvre. Et là, bon, il faudra le dire les choses un peu clairement, quoi. Une partie de l'œuvre de Nietzsche s'y prête. C'est clair. Mais pas tout.
Peut-être deux mots peut-être sur les thèmes aussi qui ont fait le succès. Tu disais, il y a le style de Nietzsche, il y a la façon dont il se positionne comme une espèce d'anti-philosophe ou quelqu'un qui va renverser la table. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, c'est un philosophe de la vie, c'est un philosophe de la force, c'est un philosophe de la création aussi, de la puissance, comme tu dis, hein, et des valeurs. Hein. Et donc, tout ça sont des thématiques qui sont des thématiques.
Du nihilisme aussi.
Alors, tout ça sont des thématiques qui sont pas des. C'est pas des trucs de logicien, c'est pas des trucs de tâcheron. Hein. Il y a une espèce de lyrisme, en fait, hein, très très fort dans toutes ces approches-là. Donc, il est aussi célèbre pour le style et pour les thèmes qu'il porte, effectivement, dans la philosophie. D'une certaine manière, comme s'il imposait ces thèmes-là à la philosophie elle-même, hein, et aux philosophes en particulier. Et alors, comme tu dis, il y a effectivement. Donc, il y a le rôle de sa sœur là-dedans, et il y a ce glissement ou cette captation possible de ces thématiques-là dans une démarche agressive, violente, et qui aboutit effectivement sur les tentatives de récupération de la part des nazis. Nietzsche lui-même, évidemment, n'est même pas nationaliste. Il a des textes extrêmement durs sur les Allemands, qui sont voilà les pires des pires d'après lui, du point de vue de la décadence de l'Europe ou de l'Occident. Mais il y a cette captation-là. Alors effectivement, sur ces années-là, c'est une réception assez rapide de son œuvre de ce côté-là, hein, du côté de la droite dure, je dirais. Mais
relativement rapide. Ouais. La sœur de Nietzsche a donné lors de la création du centre Nietzsche par les nazis, et je crois qu'il y avait Adolf Hitler qui était présent. Elle avait donné le bâton de marche de son frère à Adolf Hitler. Elle était très vieille. Donc il y a eu d'une certaine manière, il a un peu été présenté parfois, pas par tous les, mais comme le philosophe officiel, mais pas par tout le monde. Enfin, c'est un truc un peu compliqué. Il y a eu une bataille autour de l'héritage de Nietzsche, y compris chez les nazis.
Alors, qu'est-ce qui est récupérable par des nazis ou par ce type d'approche-là au niveau dans les thématiques ou dans la philosophie de Nietzsche lui-même?
Jean-Mathias joue avec des choses dans le studio et en fait il faut l'en empêcher parce que ça fait du bruit, voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qui est récupérable dans l'œuvre de Nietzsche en termes...
Et que rappelle Bouvreuil dans ce texte-là?
Alors, peut-être qu'on anticipe un peu là sur des choses. L'idée, c'est que ce qu'il va y avoir de récupérable, essentiellement par la droite, à mon avis, c'est une très très forte valorisation chez Nietzsche de l'inégalité. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour Nietzsche, il y a quand même deux types d'humains. Il y a les faibles et les forts, pour aller vite. Il y a les maîtres et les esclaves. Et trop souvent, on a voulu comprendre ça de manière métaphorique, de manière un petit peu... ou philosophique ou spirituel, du type il y a les gens qui dominent dans la pensée, et c'est vrai que pour Nietzsche il y a des gens qui dominent dans la pensée, les gens qui sont dominés dans la pensée, ok, ça Nietzsche serait d'accord, il pense être un dominant dans la philosophie, dans la pensée, mais pour Nietzsche ça va au-delà, et même si dans son œuvre il va rarement assigner la force à une classe sociale définie, il est plus intelligent que ça. Il ne va pas dire les aristocrates, c'est forcément les forts, et les pauvres, c'est forcément les faibles. Il sait bien que historiquement, c'est, par rapport à son propre système, c'est plus compliqué que ça. Il n'empêche que, pour lui, il est bon, et il faut absolument entretenir une hiérarchie dans la société. Et il faut à tout prix que les faibles restent à leur place. Et que les forts restent à leur place aussi. Et il faut protéger les forts contre les faibles. Pour une raison simple, c'est que, par définition, les forts sont moins nombreux que les faibles, ils sont plus rares, et donc si les faibles se regroupent, ils vont être plus forts que les forts, et ils vont les détruire. Or, pour Nietzsche, ce qui est important, c'est la haute culture, la grande culture.
Ce qui vaut, valeur.
Ce qui a de la valeur. Oui. Parce que, Dieu est mort... on sait qu'on finira tous en poussière et avant ça en viande pourrie. Qu'est-ce qui nous reste de valable? La création, que ce soit dans la connaissance, que ce soit dans les arts, ce genre de trucs. Et comment est-ce qu'on crée? En ayant une société qui permet la création. Et qu'est-ce que c'est que pour Nietzsche une société qui permet la création? C'est une société dans laquelle il y a des gens qui bossent comme des chiens pour que d'autres n'est rien d'autre à faire que de créer.
Alors, t'as ça c'est une hiérarchiste.
Je pense que c'est un élément essentiel.
Et alors, du coup, ce qui va avec, c'est tout ce qui va faire obstacle à cette conception hiérarchiste de la société ou des rapports humains. Donc, évidemment, ce que tu viens de dire à l'instant, c'est-à-dire toutes les tentatives que Nietzsche identifie comme des tentatives des faibles pour, justement, limiter la force créative et l'affirmation de vie, d'effort. Donc, il y a quoi de ce côté-là? Il y a les femmes, il y a les juifs, il y a le christianisme,
il y a les
socialistes, les socialistes, donc y compris dans toutes leurs variantes, il y a la philosophie héritée de Socrate. C'est quelqu'un qui donc c'est-à-dire à peu près 99% de ce qui s'est fait de l'histoire de la philosophie,
et qui pour lui est démocratique et nihiliste parce que Socrate reconnaît le pouvoir de l'argument. Et chez Nietzsche, le pouvoir de l'argument, c'est forcément une espèce de pouvoir falsifié, de pouvoir faux. Ce qui compte, ça va être d'imposer des valeurs et pas forcément de mieux argumenter. Et donc Socrate, c'est celui qui détruit finalement les valeurs en pinaillant. Et donc c'est le pinailleur qui vient foutre en l'air le bel esprit grec.
C'est ce qui fait croire à un pouvoir des mots.
C'est ça.
Une force des mots, là où il y a ça peut être avant tout des forces de vie ou des forces d'affirmation de valeur. Donc, tu l'as dit aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui va faire obstacle à ces aspirations hiérarchistes et voilà, au service hein, des meilleurs, de son point de vue, ben, il y a notamment la démocratie aussi qui pose problème, bien sûr. Et toutes les formes de nivellement, toutes les formes de moyennisation, tout ce qui va, d'une certaine manière, tendre à égaliser.
Donc aussi la science.
La science en fait partie.
La science égalise, parce que la science ramène toutes les forces différentes à des lois identiques et constantes.
Et donc ça veut dire qu'on a quand même effectivement, avec toutes ces thématiques là développées dans sa philosophie, c'est tout sauf un système. Hein.
Ça, je suis pas d'accord.
Oui, c'est
Nietzsche,
vrai, effectivement.
Ça se présente pas comme un système.
Mais finalement, ça finit par
extrêmement systématique.
Tu as raison.
Nietzsche articule il y a des différences de niveau et c'est très très difficile de savoir exactement depuis quel niveau il parle à quel moment. Mais je pense que c'est un philosophe très très systématique pour le coup.
Oui, c'est vrai. Tu as raison là-dessus. Même si effectivement les cibles peuvent varier, même si effectivement les contextes, les horizons d'attente de tel ou tel texte, de tel ou tel critique sont différents, oui. Finalement,
Parfois, il peut se contredire comme n'importe qui écrivant pendant toute sa vie.
Mais ça va quand même globalement dans le même sens.
Globalement, ça va quasiment toujours dans le même sens. C'est quelqu'un de plutôt conséquent. Là-dessus, ouais, il est très très systématique, je trouve.
Alors après, il y a toujours cette. En tout cas, bon, il y a ce qui est fascinant aussi dans le de Nietzsche, c'est que il y a une partie séparable entre, je dirais, la partie critique de Nietzsche, c'est-à-dire que tout ce qui va critiquer, tout ce qui va dynamiter d'une certaine manière, avec parfois des arguments plus que convaincants, et même voilà, bon. Et puis effectivement les projets qu'il développe, je dirais, de manière affirmative ou positive, où là évidemment, là du coup, ce que tu nous as dépeint et ce que Bouvet se rappelle dans ce livre, voilà, c'est effectivement une conception qui est
qu'il y a des phrases de Nietzsche où il dit très très clairement que tout le monde n'est pas digne d'exister.
Ouais.
Certains feraient mieux de mourir. Et il faudrait même les y aider. Ce genre de phrases, par exemple, on a tendance à les oublier, mais elles sont très très claires, très très nettes.
Ouais, c'est une conception aristocratique assumée du monde, des relations sociales, et aristocratique, y compris dans ses conséquences les plus dégueulasses, quoi, faut quand même le dire.
C'est ça.
Donc voilà, l'esclavagisme, la misogynie, le mépris des faibles, au fond, hein, le mépris des faibles, le mépris de la fragilité. Renversement des valeurs, qui est essentiellement un renversement des morales issues du judéo-christianisme. Hein, donc, de ce point de vue-là, on peut dire, et c'est effectivement un des intérêts du livre aussi, c'est de rappeler, alors c'est pas le premier à le dire, hein, Bouvresse là-dessus, mais de rappeler la cohérence et la vision d'ensemble, hein, et notamment dans ses conséquences politiques de la philosophie nietzschéenne. On va faire peut-être une première pause musicale pour essayer de voir ensuite comment ces aspects-là ont été un peu planqués sous le tapis, hein, par certaines lectures des années 70.
Like JD, I'm the GOAT, Philly hashtag swagger, world's most accurately fact-checking rapper. This shit's a game to me, shoots and ladders, here's where the bangers be. Hey girl, you know I had her. My flow the Yangtze, I spit venom black adders. Opposite of Banksy or some bullshit, all lives matter. Fuck the president, that dude can't get any badder. Mix up that poppy tea, whip it up like batter.
Hey!
Following on my headstone, they died, getting headstone, peeping tombstone, eating tombstone pizza. I've gone full blown Nietzsche. Said hello to the abyss, it was good to meet ya. Behind this mask, a terrifying creature who would gladly cook you up and eat ya. Any track I'm on, MC Foucault's the feature.
Hey, don't look away.
Out here in the shade soon, looking for some tools, man. Other rap words, flash means, I'm so over that. Like new videos.
sidewalks. Used to know it's your only friends. Minds inspiring cryons. Wanna take them out no room. I'm entirely high in the spirit. Take time to hold them in. Holocaustic, such flattering acids with a tongue so toxic. I mean, Saturn's ring, spinning a cosmic cross stitch. My staggering spit, it made God agnostic. I'm like battery acid, I'm so holocaustic. Such flattering acids with a tongue so toxic. I mean, Saturn's ring, spinning a cosmic cross stitch. My staggering spit, it made God agnostic.
Bonsoir à tous pour cette deuxième partie de Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Alors Jeudi Noir ce soir toujours avec José, Michel et moi-même autour du livre de Jacques Bouvresse, Les Foudres de Nietzsche et l'aveuglement des disciples, édité peu après la disparition de Jacques Bouvresse au printemps dernier. Vous venez d'écouter MC Foucault, Full Blown Nietzsche. Alors, c'est une fois de plus un coup de génie, une transition de génie de la part de José, puisque après que tu nous as expliqué, Michel, dans la première partie de l'émission, tu nous as donné une espèce d'aperçu un peu panoramique hein, de la philosophie de Nietzsche, notamment dans ses conséquences politiques, qui sont tout sauf des conséquences progressistes, libertaires, égalitaires et démocratiques.
Un concept que j'ai oublié de mentionner, ouais. Et qui est fondamental, c'est une erreur de ma part, c'est le concept de volonté de puissance. Chez Nietzsche, tout est régi par la volonté de puissance.
Qu'il faut encourager, qu'il faut protéger, qu'il faut cultiver.
C'est un fait qu'il faut pas nier, c'est-à-dire que tout exerce une puissance sur d'autres choses, ou est écrasé par d'autres choses qui sont plus puissantes. Et ça, c'est, pour certains interprètes, c'est le concept fondamental chez Nietzsche, la volonté de puissance. Et cette volonté de puissance, alors j'y reviendrai, parce que c'est pas un truc sympa.
Ouais. Alors, du coup, peut-être, est-ce que tu peux, dans cette deuxième partie là, de l'émission, nous en dire un peu plus sur la manière dont des interprètes, notamment français, dans les années 70, peu après mai 68, se sont réappropriés d'une certaine manière cette œuvre de Nietzsche, qui a priori est plutôt, je dirais, connotée quand même du côté de la droite dure. Elle a déjà, en tout cas, fait l'objet de tentatives de récupération du côté nazi. Hein, tu en as parlé tout à l'heure. Bon, alors, il ne s'agit pas de dire que Nietzsche est un théoricien du nazisme. Ce n'est pas le cas. Mais la plupart des thèmes politiques qu'il développe et des conséquences politiques de sa philosophie penchent quand même de ce côté-là. Or, après 68, on a notamment en France, chez des gens comme Foucault, chez des gens comme Deleuze, puis ensuite comme chez Derrida et d'autres, une espèce de renversement, je dirais, des interprétations de Nietzsche qui vont en tout cas essayer d'en faire un auteur, pas forcément un auteur de gauche, mais au moins un auteur compatible avec des options politiques de gauche radicale, voire de la gauche libertaire, hein, comme ça peut être le cas chez Deleuze, par exemple. Et alors là, il y a quelque chose d'assez stupéfiant du point de vue. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur l'histoire de ces interprétations-là? Comment ça se met en place, en fait, ces interprétations? Peut-être à quoi sert Nietzsche dans ce moment philosophique là, et qu'est-ce qui coince en fait, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans, hein, et peut-être pourquoi du coup on a affaire à des auteurs avec des failles un peu béantes aujourd'hui sur un certain nombre de questions. Alors c'est peut-être beaucoup de choses d'un coup, mais peut-être d'abord effectivement sur la réception française de Nietzsche de ces années-là. Hein,
voilà. Alors, c'est une histoire très embrouillée. Comment dire, je vous recommande, si jamais le truc vous intéresse, en complément du livre de Jacques Bouvresse, Les Foudres de Nietzsche, allez lire un bouquin plus ancien des années 90 de Louis Pinto qui s'appelle Les Neveux de Zarathoustra. Louis Pinto, c'est un sociologue et il étudie la réception de Nietzsche en France depuis le début. Et il donne un aperçu sociologique, c'est-à-dire qu'il va pas seulement se cantonner à l'examen des arguments philosophiques, il va voir aussi le positionnement social des gens qui ont introduit Nietzsche en France, pourquoi est-ce qu'ils l'ont introduit, et il va essayer de tracer en quelque sorte une espèce de tableau assez impressionnant et assez intéressant de l'introduction de Nietzsche en France. C'est un bouquin qui est très très éclairant, et qui à mon avis est très complémentaire de celui de Bouvresse, Celui de Bouvresse s'attache essentiellement aux raisons philosophiques, je pourrais dire. Celui de Pinto, c'est davantage les causes sociologiques. Et les deux s'articulent bien. D'ailleurs, Bouvresse le cite. Et après tout ce qu'on vous a dit au sujet de Nietzsche, alors on a aussi choisi un petit peu ce qu'on vous a dit, bien sûr, mais vous pourriez vous dire, bah, ce type n'est pas de gauche. Comment se fait-il qu'il ait été mis à gauche ? Et en fait, si on se penche un petit peu avec Louis Pinto sur l'histoire de la réception de Nietzsche, on s'aperçoit que l'histoire de la réception est très compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des philosophes français néo-kantiens, c'est-à-dire des partisans de Kant, comme Brunswick, qui vont très très vite percevoir que Nietzsche est tout à l'opposé de leur idéal républicain. C'est-à-dire Brunswick le qualifie d'antimoraliste, antisocialiste, antidémocratique, antiféministe, anti-intellectualiste, anti-pessimiste, anti-religieux.
Ce qu'il est.
Ce qu'il est, en 1927. Mais tous ces anti ne collent pas forcément ensemble, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes, je ne sais pas moi, antisocialiste, et mettons, ou plutôt, ouais, est-ce que vous pouvez être anti-religieux, par exemple, et anti-intellectualiste ? Bref, ce n'est pas évident. Et donc, on pourrait se dire, bah, Nietzsche a été très tôt perçu à droite, l'affaire est réglée. Sauf que dans le même temps, dans les années 20, vous avez Proust qui montre un personnage, ces personnages fameux, qui s'appelle Saint-Loup, qui est un aristocrate honteux, et qui est présenté comme un proudhonien lecteur de Nietzsche.
Nietzsche a été, on avait fait une émission là-dessus, mais il a été très vite remarqué par les anarchistes, notamment français. On avait fait une émission sur la réception de Victor Serge, qui lui, pour le coup, était tout de suite très conscient des ambiguïtés politiques de Nietzsche, même pas des ambiguïtés, mais des incompatibilités. Hein.
C'est ça.
Et
donc, là, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, tu as Victor Serge, qui est un anarchiste historique, c'est pas un personnage de roman, qui va être très intéressé par Nietzsche, mais qui va aussi très vite percevoir les problèmes politiques que pose la lecture de Nietzsche. Et d'ailleurs, lors de l'émission, quand on a fait l'émission, c'est toi qui l'avais faite, à l'époque, je n'avais pas lu la préface d'Annick Stevens. Après, je l'ai lue et je trouve qu'en fait, elle est en deçà de Victor Serge dans la compréhension de Nietzsche. Elle essaie toujours de le sauver, alors que Serge est beaucoup plus sceptique.
Du point de vue des intellos, je dirais, des intellos libertaires, Nietzsche jouit d'une espèce d'immunité quand même très importante depuis les années 70, justement.
Mais pas seulement, je pense. Alors, il faut voir aussi, par exemple, pour la complexité de la réception, que l'extrême droite française n'aimait pas Nietzsche.
Il est allemand. Il a le mauvais goût d'être allemand.
Un, il est allemand. Deux, il est athée. Ça fait quand même bien beaucoup. Et trois, il n'est pas conservateur. C'est pas quelqu'un qui, selon sa société inégalitaire, où il y a des maîtres qui dominent brutalement des esclaves pour produire des œuvres d'art grandioses, elle n'est pas dans le passé, hein, elle est dans le futur. Donc, et pour ça, il va falloir tout casser. Et en particulier, il va falloir casser le catholicisme et le christianisme de manière plus générale. Et donc, évidemment, quand on appartient à l'Action française, qu'on est royaliste et catholique, ben non, Nietzsche, ça ne peut pas être un allié. C'est forcément quelqu'un qui nous ennuie. Et donc, il y a toute cette... Et ça, tous ces débats-là, en fait, auront lieu très très tôt. Parce que la réception de Nietzsche... Alors, la France est assez étonnante de ce point de vue-là. Il y a des œuvres qu'on met 50 ans à traduire. Et il y en a certaines qui sont traduites dans Nietzsche. Tout Nietzsche a été traduit dans les 10 ans suivant sa mort par Henri Albert. Nietzsche meurt en 1900-1910.
Les textes sont connus.
Le public français a accès à une traduction qui, d'après les spécialistes, j'en suis pas un, est tout à fait honorable et donne un bon aperçu du texte. Il semble qu'Harry Albert était un bon germaniste et il a fait une excellente traduction qui a été utilisable et qui reste encore d'ailleurs, qui a donné et donc c'est reçu tout ça. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? D'une certaine manière, je pourrais dire, là, il y a tout un tas d'ambiguïtés. Nietzsche, pendant longtemps, c'est un auteur ambigu qui est repris à droite, qui est un peu repris à gauche, etc. Mais il reste ambigu. Et tout d'un coup, dans les années 60-70, il va se passer deux choses. D'une part, Nietzsche commence à être lu par les universitaires, par les philosophes universitaires, ce qu'il n'était pas auparavant. Avant, il était lu essentiellement par des germanistes et par des artistes et par des gens de l'avant-garde.
Par romanciers, tu l'as dit, Proust, Paul Valéry,
Blanchot, Bataille, tout un tas de gens qui avaient lu Nietzsche n'étaient pas des philosophes de formation.
Des philosophes professionnels.
Et n'avaient pas aussi accès à une chaire philosophique. Et à partir des années 60-70, Nietzsche commence à être intégré à l'université française. Il est reconnu, on met au programme de l'agrégation de philosophie, tout un tas de trucs comme ça. Et puis d'autre part, alors ça c'est peut-être plus à partir d'un fameux colloque chez les filles, enfin en France, un colloque à Cerisy, Il y avait eu un premier colloque en 64 où Nietzsche avait été commenté par des grands noms de la philosophie française et européenne, mais des gens installés. Et en 72, il y a un colloque organisé à Cerisy où là, globalement, les Deleuziens et les partisans de Deleuze, donc de Gilles Deleuze, et les partisans de Jacques Derrida vont un peu s'écharper autour de l'interprétation de Nietzsche. Foucault brille par son absence, il était présent à Royaumont. À Cerisy, il n'est pas là, il laisse les autres s'entretuer, il doit penser à autre chose, lui. Mais et là va s'imposer, d'une certaine manière, l'idée d'un Nietzsche de gauche, qui va devenir un peu hégémonique, alors qu'auparavant, les choses étaient plus complexes. Et ce Nietzsche de gauche, alors, moi j'ai envie de le comprendre de manière un peu méchante, à partir du slogan « Tout ce qui bouge est rouge ». C'est-à-dire que Nietzsche, c'est un philosophe de la vie, j'approuverais ça montrer à quel point le vitalisme en philosophie, dans les années 30, en réalité, est associé à des mouvements qui sont plutôt de droite, voire d'extrême droite. Mais le mot
vie... C'est la vie contre la raison, contre la connaissance, contre la...
Le mot vie résonne bien, personne ne peut être contre la vie. Vous avez envie d'être pour la mort, vous ? Non, on est tous... pro-vie, vous voyez.
Je signale au passage que cette ligne d'interprétation-là est toujours bien vivante. Oui. T'as Barbara Stiegler là, qui vient de sortir un livre là-dessus, sur Nietzsche et la philosophie de la vie, une autre histoire de la philosophie, donc on est toujours sur cette thématique-là. Évidemment, on est pour la...
Stiegler et Barbara Stiegler est classée très clairement à gauche, pour le coup, à plein de niveaux. Il y a pas de, on va pas dire que c'est une femme de droite. Mais malgré tout, vous avez ce philosophe de la vie, c'est un philosophe du devenir aussi. Alors le devenir, c'est une catégorie philosophique.
Donc il est anticonservateur.
Un peu abstraite. Donc on va se dire, comme il est pour le devenir, il est anticonservateur, ce qui est faux. Parce qu'en fait, on tire une conclusion de sa vision des choses à sa vision de la vie politique. Alors c'est pas parce que vous croyez que les choses elles-mêmes changent tout le temps. Que vous êtes forcément en faveur d'un changement permanent dans la vie sociale. Alors Nietzsche n'est pas conservateur politiquement, donc ça complique un peu la donne, mais bon, malgré tout, c'est pas parce que vous êtes un philosophe du devenir que vous êtes forcément un philosophe progressiste, disons. Et puis c'est aussi, un autre mot qui a eu une autre expression qui a eu beaucoup de succès, le gai savoir. Le gai savoir, alors allez définir le gai savoir. Ça m'a toujours semblé un peu obscur. Vous avez des choses chez Clément Rosset qu'on a déjà présentées ici.
En tout cas, c'est souvent conçu comme une espèce d'anti-académisme.
Complètement. C'est aussi le philosophe de la danse et du dionysiaque. C'est-à-dire, si vous prenez
par exemple son
premier livre, La naissance de la tragédie, ça va être... José est méchant, il parle du cercle des poètes disparus depuis son studio. Carrément. Sans pitié. Le premier bouquin de Nietzsche est consacré à la naissance de la tragédie, et pour lui, la tragédie vient d'un affrontement non dialectique entre Dionysos et Apollon. Apollon, c'est le dieu grec de l'ordre, de la mesure,
de l'équilibre, de la symétrie, de l'harmonie.
Et Dionysos, c'est un dieu qui n'est pas grec, qui est importé et qui est le dieu de l'ivresse,
de la démesure.
Et c'est leur association qui va produire la tragédie grecque. Mais le personnage d'Apollon va être plus ou moins abandonné au fur et à mesure des années par Nietzsche, alors que le personnage de Dionysos sera revendiqué jusqu'à la toute fin, puisque ses dernières lettres, écrites depuis la folie, seront signées Dionysos le crucifié.
Mais la question est, Dionysos est-il de gauche ?
Alors, c'est vrai qu'à côté de l'anarcho-syndicalisme, il y a une tendance connue depuis longtemps dans l'anarchisme qui s'intitule, qui est nommée l'anarcho-éthylisme. Oui. Mais, et donc, on pourrait se dire, s'il picole, c'est qu'il est de gauche. Oui. Mais non.
Non, mais je pense que tu peux, enfin, plus sérieusement, tu peux, sur ce que tu disais sur le philosophe de la vie, du devenir, on peut aller plus loin que ça. Moi, il me semble, sur certaines, la vie qui déborde, qui devient, l'affirmation de la créativité et la singularité des individus. Il y a quelque chose... dans certains textes, t'as presque l'impression que Nietzsche est une espèce de présenté en tout cas comme une espèce de philosophe, une philosophie contre l'État, pratiquement.
Nietzsche n'aime pas beaucoup l'État.
Il n'aime pas l'État, les monstres froids, les fameux monstres froids. Mais du coup, on en tire presque une espèce d'anarchiste 68-art, quoi. C'est quand même ça, l'idée.
Alors, la thèse de Pinto, de Louis Pinto, là, dont je vous citais le bouquin, Les Neveux de Zarathoustra, c'est que l'interprétation, la réception de Nietzsche en France a été souvent... déchiré entre deux pôles, le pôle artiste et le pôle savant, et que ceux qui l'ont le plus tiré du côté de la gauche, ça a été les artistes, qui sont reconnus justement dans ce personnage dansant, musicien,
esthète,
qui invoque sans cesse les forces de la vie contre justement la morne connaissance.
Une espèce d'anti-bourgeois, t'as aussi ça. Alors, de fait, il l'est, anti-bourgeois.
Parce qu'il est aristocrate.
Parce qu'il est aristocrate, voilà.
Enfin, mais donc, pas de naissance, mais d'idéologie.
Ça, d'idéologie. Et donc, voilà, cette espèce de critique du bourgeoisisme, voilà, de la mesure, du juste milieu, du conformisme, etc.
Ah, c'est la critique du boutiquier, qu'on trouvera, par exemple, autant chez Junger, qui était un fasciste allemand et un écrivain, que du côté d'aujourd'hui du comité invisible. Le boutiquier, c'est toujours le personnage qui compte, qui est là en train de
le petit bourgeois.
Le petit bourgeois, en train
le
de compter
petit
ses sous.
Le bourgeois mesquin, le petit bourgeois étroit. Alors, il y a effectivement une espèce de critique au vitriol de ça chez Nietzsche, mais c'est aussi quelque chose, cette critique-là, on la trouve aussi, effectivement, dans les mouvements d'extrême droite depuis toujours, hein, avec une espèce d'encouragement au lyrisme, voilà, à la valeur, à l'être d'exception.
Au sacrifice.
Au sacrifice, à l'esprit chevaleresque, à l'esprit de la guerre, etc., etc. Donc après, il y a une assez grande en même temps, voilà, mais est-ce que c'est de la naïveté ou pas? C'est quand même une vraie question de savoir pourquoi des auteurs comme, quelqu'un comme Deleuze a été chercher effectivement des outils ou a été chercher des équipements du côté de chez Nietzsche. C'est une vraie question parce que il est difficile quand même de se cacher derrière son petit doigt et d'oublier les passages esclavagistes, misogynes, antidémocratiques qui sont récurrents chez Nietzsche, quoi. Donc comment il a pu penser, quelqu'un comme lui a pu penser ça. Chez Foucault, c'est aussi plus compliqué. Alors, chez Foucault, il y a l'idée, c'est essentiellement la critique de la science, la critique de l'autorité de la raison aussi qui va récupérer chez Nietzsche, avec l'ambition de proposer autre chose, une espèce de cohérence du devenir, de la connaissance comme pouvoir, hein, c'est un thème très très fort qu'on fait en fait aussi une bonne partie du succès de quelqu'un comme Foucault et de ses œuvres. Donc c'est quand même une question les motivations sont pas forcément les mêmes chez les deux d'ailleurs.
Hein. Ce que tu viens de dire,
là, c'est encore autre chose évidemment. Mais je trouve que là il y a quand même des points d'interrogation majeurs, quoi. Ouais,
énorme, parce que aucun des gens que tu viens de citer aucun d'entre eux n'était des imbéciles. Ils savaient lire, parfois ils savaient même très très bien lire. Moi je les ai beaucoup lus, ils m'ont beaucoup inspiré aussi quand j'étais plus jeune. Ensuite, je pense qu'il y a tout un tas de jeux internes à la discipline. C'est-à-dire que, par exemple, chez Deleuze, il y a clairement... Nietzsche lui sert contre Hegel, et donc contre une partie de l'université qui se réfère à ce grand philosophe allemand qui est Hegel, qui est un philosophe conservateur, du système, de la raison, etc., etc. Donc Nietzsche lui sert de missile contre Hegel. En même temps, Deleuze est convaincu... Alors, il y a une définition de la gauche qui est particulière, qui, à mon avis, est complètement apolitique. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, l'artiste en tant que créateur est nécessairement de gauche. Parce que la création s'oppose au système en place, pour simplifier énormément, mais vous avez tout un cours comme ça de Deleuze où il va dire l'artiste, s'il est vraiment artiste, est de gauche. Et donc, je pense qu'il est sincèrement convaincu que Nietzsche est de gauche et qu'il a tendance à mettre un peu sous le tapis tous les textes qui affirment le contraire.
Chez Foucault, c'est plutôt...
Et alors, attends, là, je finis là-dessus. Et un des pièces essentielles de Deleuze, ça va être l'opposition qu'il invente, et c'est un truc que montre Bouvresse dans Les Foudres de Nietzsche, que Deleuze invente par erreur parce que les textes sont à l'époque de Deleuze mal établis ou mal traduits. Et Deleuze va essayer de distinguer volonté de pouvoir, qui pour lui est politique, qui est de l'ordre de la domination, qui est de droite, qui est méprisable, et la volonté de puissance, qui serait, elle, de l'ordre de la création, qui serait de l'ordre plutôt du côté de l'enfant, de l'artiste.
Et c'est une distinction qui a été reprise, mais alors...
Partout.
Voilà, de manière partout. Industrielle.
Alors, vous avez,
tout ça, chez des gens comme DG Benassayag, des tas de gens dans tous les domaines, en fait.
Mais ça, c'est... Ben là, vous avez une dizaine de pages dans le bouquin Les Foudres de Nietzsche.
Au départ, il y a une faute de traduction.
Et au départ, il y a une faute de traduction. Et en fait, ça ne marche pas. Parce que vous avez Kraft et Marthe, et le texte de Kraft parle en fait de la physique. Il parle pas du tout de domination. Donc, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et là, vous avez un souci. Alors, on va peut-être faire une pause quand même, parce que là, on va saouler les gens, et puis on va peut-être aborder les autres thématiques après, parce que, avec ta question de 3 minutes, on avait de quoi parler 4 heures.
Alors, prochain morceau, ben justement, voilà. Oubliez la vérité, parce que vous, trop tard.
Thank you.
Bonsoir à tous et toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir ce soir pour sa dernière partie, toujours avec José, Michel et moi-même, autour du livre de Jacques Bouvresse, Les Foudres de Nietzsche et l'aveuglement des disciples, édité chez Hors d'Atteinte au mois de juin dernier.
C'est sorti en octobre.
Ou en octobre, oui.
C'est sorti fin octobre.
D'accord.
Alors, on est à la pointe de l'actualité.
Donc, on a vu avec toi, là, Michel, là, sur les deux premières parties de l'émission, rappeler un petit peu déjà en quoi consistait très rapidement les thématiques de la philosophie Nietzsche qui avait fait le succès de sa réception en France. Tu nous as parlé aussi de la manière dont il y a un tournant dans les interprétations de l'œuvre de Nietzsche autour des années 60 et 70, tournant qui va en faire une espèce d'auteur de gauche, voire d'inspiration libertaire, opposé à l'État, aux bourgeois, à la conservation des choses telles qu'elles sont, avec une apologie de la créativité individuelle, une exaltation du désir et de l'affirmation et de la volonté de puissance de chaque individu contre toutes les forces de la conservation. Alors, on était en train d'en parler juste avant. C'est une interprétation qui va très très vite sur les aspects beaucoup moins sympathiques de l'œuvre de Nietzsche, à savoir son aspect fortement hiérarchiste, fortement antidémocratique, antisocialiste, apologiste de la force et de la puissance en tant que telle. Peut-être que, du coup, quand même, avant de voir ce que Bouvresse trouve, lui, d'intéressant dans l'œuvre de Nietzsche, et qu'il a discuté déjà depuis très longtemps, parce que c'est pas son premier texte sur Nietzsche, il y avait...
Au moins 3-4 autres, où il en parle vraiment beaucoup.
Et c'est un auteur qu'il a pratiqué et qui dit avoir pratiqué depuis toujours, de manière clandestine, disait-il, pendant longtemps. Bon, puis finalement, il est sorti de la clandestinité et il a fini par publier quand même pas mal de choses sur l'œuvre de Nietzsche. Donc avant d'en venir un petit peu au Nietzsche de Bouvresse, je dirais, qui est quand même singulier, je trouve, par rapport aux interprétations habituelles, est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot quand même, du coup, des conséquences peut-être que peut avoir cette espèce d'occultation des aspects les moins sympathiques politiquement chez Nietzsche, quelles conséquences dans les philosophes, les auteurs ou dans la philosophie qui se réclament aujourd'hui de ce moment philosophique des années 70, de ces grandes figures de la vie philosophique des années 70 que sont des gens comme Foucault, comme Deleuze, comme Derrida. Est-ce que il n'y a pas, par exemple, du côté chez eux, une espèce de prise très à la légère de la notion de vérité, par exemple, qui rend ces auteurs-là et les gens qui s'en réclament aujourd'hui finalement très démunis par rapport à des par rapport à des à des à à des positionnements qui se développent beaucoup aujourd'hui autour des questions de la post-vérité, du fake, du culot, je dirais tout simplement, du culot médiatique, des révisions de l'histoire. On a Zemmour qui nous explique que Pétain était un défenseur des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On a Trump qui nous explique que en fait tout ce qui va pas dans le sens de ce qu'il va dire relève de la manipulation. C'est-à-dire comme si finalement la notion de vérité dépendait uniquement de celui qui cause le plus fort, ou qui a le plus de plateaux de télé disponibles pour exposer son point de vue. De fait, est-ce qu'effectivement le fait d'avoir bazardé un peu cette idée de vérité au nom de Nietzsche, ce qui n'est pas le cas, est-ce que rappelle Bouvresse de Nietzsche lui-même, mais cette critique de la notion de vérité, est-ce que c'est pas quelque chose qui du coup affaiblit, je dirais aujourd'hui, singulièrement les philosophes quand ils sont confrontés à ce type de culot-là ou d'abus-là?
Oui, j'aurais tendance à dire que ça les affaiblit conceptuellement, parce que dans les faits, ils ont toujours été faibles face à la parole des gens au pouvoir. Simplement, je pourrais dire ça comme ça, peut-être, en étant un peu... tout le monde sait que les gens au pouvoir mentent et essaient de nous faire croire à leurs mensonges.
C'est pas nouveau.
C'est absolument pas nouveau. Mais depuis quand est-ce que les gens peuvent sérieusement croire que, en quelque sorte, le pouvoir produit de la vérité? Ça, c'est quand même quelque chose d'un peu curieux. C'est-à-dire... c'est comme Rancière qui disait à Bourdieu, non mais qui peut croire que l'école c'est le loisir? Mais qui peut croire que le pouvoir dit la vérité? Tout le monde sait que c'est faux, que le pouvoir quasiment par définition ment, et va essayer de travestir les faits. Le souci, si vous voulez, c'est que une fois qu'on sait ça, on est toujours aussi impuissant face au pouvoir qui impose sa vision du monde. Par contre, si on commence à dire que il n'y a pas de fait, ou que c'est un concept inutile.
Il y a simplement de la force, des rapports de force.
Ah non, il n'y a simplement que des interprétations. Alors déjà, on peut se demander ce qu'on interprète, s'il n'y a pas de fait à interpréter, mais bon, ça, ce serait une autre question. Mais que simplement, voilà, en quelque sorte, il y a des points de vue qui s'opposent. Effectivement, là, le concept de force va intervenir. Comment est-ce qu'on peut contester le discours, finalement, du dominant?
Et c'est bien à ça que Nietzsche a servi dans les interprétations qui en sont faites dans les années 60-70. C'est une manière de remettre en cause l'idée qu'il y aurait des faits, l'idée qu'il y aurait une connaissance des faits, l'idée qu'il y aurait, même par certains moments, tu peux te demander si l'idée qu'il y ait une réalité extérieure indépendante des points de vue des uns et des autres aurait du sens, quand tu lis certains textes de ces années-là. Alors ça, pour le coup, c'est des thèmes sur lesquels Bouvresse a passé sa vie.
C'est Deleuze qui écrit, par exemple, dans son bouquin sur Proust. Alors, on sait jamais s'il attribue ça à Proust ou s'il le pense lui-même, mais il écrit, comme il est difficile d'arrêter de croire à l'existence de la réalité extérieure, il montre que Proust, en quelque sorte, critique cet objectivisme et l'idée qu'il y aurait un monde extérieur dans nos esprits.
Et ça, c'est comme ça que Nietzsche a été lu par ces auteurs-là.
En partie. Alors, c'est compliqué parce qu'ils sont extrêmement fuyants, ils sont extrêmement subtils, parfois sophistiques, à mon sens. Et donc, bon, c'est pas toujours facile de mettre le doigt sur ce qu'ils pensent.
Et quelqu'un comme Foucault, par exemple, aussi se réclame de Nietzsche en disant que la science ou la connaissance de la réalité extérieure est toujours, en fait, une affaire de pouvoir.
Non, chez Foucault, c'est beaucoup plus compliqué. Pas forcément une affaire de pouvoir, mais ça va être une affaire de perspective.
Ouais.
Ça, c'est le perspectivisme nietzschéen défendu dans La Généalogie et la Morale. C'est-à-dire que notre compréhension de la réalité va être faite à partir de passion, mais il y a quand même une réalité à comprendre chez Nietzsche. Et ça, chez Nietzsche, Nietzsche ne renonce absolument pas au concept de vérité.
Alors ça, c'est le point important.
Et c'est ce qui intéresse Bouvresse. Beaucoup Bouvresse. Ouais. Parce que justement, quasiment toute la critique que peut faire Nietzsche de la philosophie est faite au nom d'une conception intransigeante de la vérité. Et la vérité, pour Nietzsche, c'est que justement, en fait, la connaissance du point de vue de l'humanité est quasiment impossible, parce que tout devient sans cesse et que tout se transforme sans cesse. Ce qui fait que toutes nos connaissances, ou prétendues connaissances, sont en réalité des falsifications, puisqu'elles consistent à dire,
je sais que ceci et cela.
Et malgré tout, chez Nietzsche, il y a quand même, on pourrait dire, une vérité ontologique, c'est-à-dire les choses, la façon dont les choses sont, c'est ontologique, une vérité fondamentale. Tout devient tout le temps, et rien ne reste jamais identique à soi. Et c'est au nom de cette vérité ontologique que Nietzsche peut écrire, par exemple, il faudrait déterminer quelle quantité de vérité un esprit est-il capable de supporter?
Oui, ça c'est un thème aussi. Donc, sur ça, lequel je reviens tout le temps. L'idée que en fait il y a probablement pas de volonté de savoir chez l'être humain, mais que par contre il y a très probablement une volonté de ne pas savoir. De ne pas savoir et que c'est ça qui l'intéresse lui, c'est-à-dire c'est effectivement la manière dont Nietzsche cherche d'une certaine manière à savoir, y compris
complètement
jusqu'à la folie.
Nietzsche, c'est manière, quelqu'un qui va revendiquer le fait que justement lui, son esprit, en quelque sorte, qu'est-ce qui est le plus puissant dans son esprit? C'est la volonté de se confronter à la réalité. Et il pense que être un surhomme, enfin, on pourrait dire ça comme ça, chez Nietzsche, c'est être capable de regarder la réalité en face.
Ça veut dire que le désir de connaissance est quelque chose qui est fondamental chez lui.
Complètement.
Pour lui, savoir.
C'est ça, être un philosophe. Être un philosophe, c'est quand la volonté de connaître a pris le pas sur toutes les autres volontés.
Alors, ça, c'est quelque chose qui, pareil, est laissé de côté assez largement par les interprétations dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des interprétations qui sont devenues dominantes à partir des années 70, où le désir de savoir, la volonté de savoir, la recherche de la vérité, notamment dans le domaine des sciences, alors à l'université, n'en parlons pas, mais de manière plus générale, est une question qui est considérée comme mineure, d'une certaine manière, hein, et qui va passer, en tout cas... derrière la valorisation de l'expérience esthétique, de l'intensité vécue, etc., etc.
Chez Foucault, c'est plus compliqué, mais comme toujours, comme souvent, disons, parce que malgré tout, vers la fin de sa vie, il va revendiquer la connaissance, il va revendiquer différentes choses. La recherche de la vérité, je ne sais pas s'il peut la revendiquer honnêtement, mais peut-être que c'est ce qu'il faisait. Mais en tout cas, par rapport à son système conceptuel, c'est compliqué de le justifier. Enfin, je crois. Après, par rapport à ça, bon, Nietzsche, à mon avis, et ça, Jacques Bouvresse le montre bien, est en porte-à-faux complètement avec la tradition des années 70, qui fait de Nietzsche, tu parlais des conséquences sur la pensée de gauche. Nietzsche est à des tas de niveaux un relativiste. C'est-à-dire qu'il va relativiser tout un tas de choses à partir d'autres choses qu'il estime plus importantes éventuellement, et il n'arrête pas de relativiser un petit peu tout. Malgré tout, ça, par rapport à la gauche, ça on l'avait déjà dit dans d'autres émissions, ça aussi, en fait, c'est une importation d'un thème de droite dans la pensée de gauche. C'est-à-dire que les premiers relativistes au XVIIIe siècle, comme Herder, c'est des gens qui luttent contre Kant et qui veulent... mettre en avant les particularités féodales locales qu'ils vont opposer à l'idée d'une société organisée d'après des normes communes, sinon universelles, du moins rationnelles.
Alors après, dans l'histoire de la pensée socialiste au sens très très large, hein, donc j'inclus les anards dedans, etc., t'as aussi tout un courant qui, au contraire, lui, se réclame effectivement de la connaissance, de la recherche de la vérité, de la philosophie des Lumières, et que tu trouves aussi bien chez des gens comme Kropotkine, par exemple, dans la tradition anarchiste, qu'évidemment chez Marx. Hein.
Alors, Bakounine.
Bakounine également. Alors, chez Marx également, alors avec des ambiguïtés, mais il y a quand même chez Marx l'ambition aussi de fonder une science, et d'une certaine manière même de justifier la révolution et l'engagement politique par une science nouvelle. Hein, voilà. Donc, alors, on peut en parler longtemps de cette science-là, parce qu'elle n'est pas très scientifique, pour le coup. Mais en tout cas, la science apparaît comme une valeur, si tu veux, et comme quelque chose qui est fondamental dans une perspective, y compris révolutionnaire. Hein. C'est une critique scientifique du capitalisme, etc. Il y a quand même cette idée, si dans les années 70, chez des gens comme, ils ont un point commun, ces gens-là, quand même, c'est qu'ils sont tous radicalement anticommunistes et anti-marxistes, d'une certaine manière. Et Nietzsche leur a aussi servi, d'une certaine manière, à remettre en question cette ambition scientifique qui était...
Et Foucault dit des choses très dures sur les anarchistes, en disant qu'il n'est pas anarchiste parce que l'anarchisme suppose une certaine conception de la nature humaine que Foucault récuse dans son principe.
C'est l'anarchisme classique, quoi.
L'anarchisme classique, il y a une nature humaine. Ouais. Et chez Chomsky, qui est un anarchiste classique, il y a une nature humaine. Ouais, Foucault ne veut pas de ça.
Bien sûr.
Donc là-dessus, c'est clair. En même temps, tu vois, les choses sont très compliquées, il faudrait faire une espèce d'histoire un petit peu dans le détail, c'est que un point sur le sur lequel les marxistes classiques et les gauchistes nietzschéens peuvent se retrouver, c'est dans le rejet complet de la morale et dans la valorisation des rapports de force.
Oui, tout à fait.
En gros, seul compte la force et la morale, la morale n'est qu'un déguisement des rapports de force. Et là-dessus, pour le coup, les anarchistes jouaient une autre partition. Ils reconnaissaient l'importance de chez Malatesta, avec l'idée que, par exemple, le choix des moyens détermine la fin et qu'on ne peut pas choisir n'importe quel moyen pour obtenir son but. Il y aurait encore des tonnes de choses à dire. On arrive à la fin de l'émission.
Alors peut-être terminer là-dessus, en tout cas sur le fait dire que on trouve tout ça en tout cas dans ce livre-là. Non seulement effectivement des choses très intéressantes sur l'œuvre de Nietzsche elle-même, sur ses interprétations et sur du coup les fragilités, les omissions des interprétations qui sont devenues dominantes, et aussi même si on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, sur la lecture que Gouvresse lui-même donne de cet auteur-là, qui se rapproche par certains côtés d'autres.
C'est la fin.
L'attachement à la vérité.
Et plus que ça, c'est une grosse question, c'est à savoir, est-ce qu'on peut concilier en quelque sorte le bonheur et la lucidité? Est-ce que la connaissance peut rendre heureux, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous conduit nécessairement au malheur? C'est une question très classique, mais que je crois Bouvresse a beaucoup traité à travers Nietzsche.
À travers Nietzsche, tout à fait.
Donc c'était Les Foudres de Nietzsche et l'aveuglement des disciples de Jacques Bouvresse. On essaie de vous le présenter à travers tout un tas d'éléments de contexte aussi. Voilà, c'est édité chez Hors d'Atteinte, c'est un assez beau livre, on vous le recommande. Et on se retrouve donc normalement dans 2 semaines pour une autre émission.